Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio d'Audibanais. Ici c'est Xavier, je reçois aujourd'hui Louis-Marie Dupin. Bonjour Louis-Marie.
Et bonjour Xavier, bonjour à tous.
Tu as une particularité, tu es...
J'accompagne beaucoup d'établissements scolaires en aumônerie, dont justement Sainte Famille Ourquiro.
D'accord, mais tu es prêtre.
Je suis prêtre, oui, voilà, si on oublie ça.
Oui, parce qu'à la radio, ça ne s'entend pas. Donc tu es un jeune prêtre, quel âge as-tu ?
43 ans.
D'accord, tu fais plus jeune.
Tout le monde me le dit. Ça me rassurera quand je serai vieux.
Donc tu es prêtre donc, à la paroisse Saint-Pierre de l'Océan.
Exactement.
Et tu t'occupes plus particulièrement donc, de la jeunesse, on va dire.
Voilà, exactement. Mm-hmm. J'accompagne Saint Thomas d'Aquin, Sainte-Marie.
Ouais.
Donc là aussi, le catéchisme paroissial sur la paroisse, puis ici la Sainte Famille.
D'accord, c'est beaucoup de travail.
Oui et non. J'irais oui, parce qu'il faut préparer un peu à chaque fois que je cherche des choses. Je me pose la question de comment est-ce que je pourrais le transmettre aux jeunes. Donc là-dessus, ça va me demander du travail, ça va me demander du temps, parce qu'il faut être présent. C'est le problème un peu de la pastorale. J'avais été très touché il y a quelques années. J'étais encore séminariste à l'époque, et on avait une conférence par un salésien qui expliquait qu'il faut que vous compreniez... Le plus important, c'est pas ce que tu vas dire aux élèves, mais le plus important, c'est le temps que tu es capable de passer avec eux. En disant, quand ils jouent au foot, si tu sais jouer au foot et que tu joues avec eux, c'est génial. Par contre, si tu es capable de passer du temps, parce que tu sais pas jouer au foot, mais juste sur le côté du terrain, les regarder, dis-toi que là, tu es en train de gagner leur confiance. Dis-toi que s'ils voient que tu as du temps à perdre pour eux, alors le jour où ils auront un problème, c'est toi qu'ils iront voir parce qu'ils savent que tu es prêt à t'occuper d'eux lorsqu'ils en ont besoin. En gros, on approche les enfants comme on apprivoise un animal sauvage.
Oui, c'est
vrai. Il faut passer beaucoup de temps à côté d'eux. Et au bout d'un moment, on voit que la glace est brisée et c'est eux qui avancent et qui viennent. Donc là-dessus, oui, ça va demander plus du temps de présence que du travail. Donc c'est plutôt agréable pour moi. Moi, j'aime beaucoup.
D'accord.
Après, j'ai des parents qui étaient éducateurs, ce qui aide beaucoup. Oui. Maman est institutrice et papa était moniteur d'équitation.
Donc... Alors, justement, sur ton enfance, toi, à l'école, ça se passait bien, l'école ?
Dans quel sens ?
Quand tu étais en école primaire, tu étais heureux d'aller à l'école ou tu n'avais pas envie d'y aller ?
Heureux d'aller à l'école, plutôt bon élève, mais très dissipé.
Très dissipé, d'accord. Et puis... ça doit être une question récurrente qu'on te pose, mais je te la pose malgré tout. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, tu t'es dit, je vais avoir cette vie si particulière de prêtrise ?
Il faut surtout voir que dans toute mon enfance, je ne voulais pas être prêtre.
D'accord.
Et même quand j'étais jeune, comme j'étais un peu très dissipé, quand il y avait des pièces de théâtre à la fin de l'année avec l'école... justement, moi, j'avais même pas le droit de faire le prêtre en disant, non, vu comme il est dissipé, lui, il va faire le méchant à chaque fois, mais pas le prêtre. Là, et j'avais jamais eu l'intention de l'être au départ. Je pouvais avoir des périodes dans ma jeunesse où j'avais été pieux. Moi, je demandais à maman d'aller à la messe en semaine. Donc, quand on parle de piété, c'est j'ai eu une période où j'en ressentais l'attrait. Puis après, dans l'adolescence, plutôt une opposition même violente. J'ai eu ce gros souci, alors qu'il m'a été salutaire, de me dire, mais qui me dit qu'on ne m'a pas trompé ? Voilà, j'ai reçu la foi de mes parents. Génial, ils m'ont donné, quoi, surtout maman, m'a donné ce en quoi elle croyait, avec sa grande foi, sa grande capacité de croire. Mais qui me dit qu'on ne m'a pas trompé ? Qui me dit que tout est vrai ? Et quand je regardais, en me disant, en plus, on avait une théologie à l'époque, énormément du péché. Donc le principe, c'est de ne pas pécher. Mais en réalité, ma vie était devenue une somme d'interdits. T'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, en me disant, mais attends, mais ma vie, c'est que des interdits. Et ceux qui croient pas, eux, ils ont le droit de tout faire. Est-ce que ça vaut le coup de passer ma vie en interdit? Ou est-ce qu'à un moment, ça peut avoir le sens de dire, non. Finalement, peut-être que c'est joli, mais pas plus. Donc c'est vrai que j'ai eu ma période d'adolescence, surtout le lycée, a été confrontée à cette question. Est-ce que Dieu existe vraiment ? Mais j'ai toujours eu cette honnêteté qui fait que j'ai jamais quitté, dans le sens en me disant, je ne peux pas dire que je ne crois pas tant que j'ai pas répondu à la question, est-ce que c'est vrai ou pas ?
Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ?
La réponse que j'ai donnée à la fin, oui. Ça m'arrivait en terminale, où j'acceptais de rendre les armes. C'est plus que dire que c'est vrai ou pas. J'étais arrivé, à chaque fois je réfléchissais en me disant quel est l'argument qui pourrait dire que c'est faux. Hop, j'allais voir le prêtre en disant voilà, mais cet argument, vous y répondez comment et machin. Donc à chaque fois il arrivait à répondre, donc je repartais, et ça m'a obligé à me poser la question de Dieu, à me poser à lire, à essayer de répondre, c'est-à-dire pas uniquement dire allez, ça m'agace, je laisse tomber. Non, je vais m'y confronter. Et grâce à ça, au bout d'un moment, j'ai plutôt été vaincu dans le sens de je peux pas prouver que tu n'existes pas et ça a plus de sens d'accepter que tu existes. Et à un moment, de te faire confiance. Ça a été ça plutôt mon parcours.
Et donc maintenant, tu fais confiance.
Voilà, mais après, c'est pas ça qui a fait que j'ai voulu rentrer au séminaire, et de loin. C'est donc après, j'ai eu ma terminale, j'ai eu l'avantage d'avoir de très bons amis avec qui on pouvait avoir de grands échanges, les Dominicains qui venaient à la SOC, où j'étais en terminale. Donc de grands échanges, on était tout un petit groupe qui se posait beaucoup de questions. Les Dominicains étaient ravis de venir répondre à nos questions pour une fois que ça cartonnait un peu, avec des amis quand même qui étaient bien formés, hein, qui connaissaient la philosophie, qui vraiment rentraient dans les sujets. Et ça m'a beaucoup questionné, surtout que nous étions à la fraternité Saint-Pédis, l'impression que nous on connaissait, que les autres rien, et là on se rencontre avec des gars qui ne sont pas pris en charge par les Dominicains, et on se dit waouh, ils défendent mieux la foi que moi, il doit y avoir des choses. Donc ça m'a donné une grande ouverture d'esprit. Après je suis rentré en mécanique, et c'est là où il y a eu cette question. On avait les TP, donc on s'est échangé. Et une fois, durant une discussion où j'étais allé chez un ami, on a eu cette discussion. Il me dit il n'y a pas plus horrible que la vie de prêtre, ils savaient tous que j'étais chrétien, à cause de la vie sexuelle. Il n'y a pas de vie sexuelle, il n'y a pas plus horrible. Et j'ai passé la soirée à défendre que si on comprenait ce que c'était, c'était beau. Et c'est là, en rentrant sur mon vélo le soir, donc il y avait quand même 12 km, hein, le temps de réfléchir un peu, cette question qui me venait. C'est bien d'avoir parlé pour les autres, mais pour toi. Alors je me suis dit, oh là là, la discussion était animée, demain ça ira mieux. D'ailleurs, le lendemain, j'étais retourné à mes calculs d'outils tournants et autres. La question me quittait, mais souvent, elle revenait, et pour toi. Perturbant. Hein. Donc, une première retraite en me disant, ça me posait des questions. Puis finalement, je me suis dit, on va laisser courir. Et c'est 2 ans après ou 3 ans après, quand j'étais en master, durant le stage d'ingénieur en gros, cette question qui se faisait de plus en plus présente, et pour toi. Et là je me retrouve à me lancer dans la vie en me disant, je veux me lancer dans la vie, être ingénieur, et voilà que j'ai une question qui me demande si c'est pas ailleurs que je devrais être. Donc je me suis dit, ok, là il y a le séminaire du bon pasteur qui ouvre, j'y rentre. Voilà, j'y vais, je vais pas me cacher, je vais faire exactement, on me demande de me lever à 6h, je me lèverai à 6h, on me demande d'aller prier dans la chapelle, j'irai prier dans la chapelle, je ferai exactement ce qu'on me demandera. Par contre, je ne saurai pas d'être le saint que je ne suis pas, donc je vais pas prier en inclinant la tête et autres. Si le Seigneur me veut, il me prendra tel que je suis. Et si c'est pas fait pour moi, et que je me cache pas, que je me donne à fond, ça va vite se voir. Donc je suis rentré au séminaire à fond, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Et en me disant, si ça va pas, ça va vite se voir. Alors, c'est là où j'ai appris plus tard que mon frère avait fait des paris avec tous mes amis pour savoir combien de temps je resterais au séminaire. Le plus osé avait pris un pari de 2 mois. Ouais. Voilà, finalement, non, j'y suis resté. Et même ça allait plus loin. Donc, à chaque fois, j'attendais cette réponse qui me dise, c'est pas fait pour toi, c'est bête. J'ai commencé mon séminaire en recherchant l'élément qui me dirait que c'est pas fait pour moi. Et ce qui est amusant, c'est qu'à chaque fois que j'avais des difficultés, je vais voir mon directeur spirituel, je dis, peut-être que c'est pas fait pour moi, mais peut-être que ma réponse, elle est là. Non, ça, c'est pas ta réponse, continue. Même quand j'ai été viré du séminaire, je me retrouve le directeur spirituel, je vais voir en disant, là, je crois que vraiment, j'ai du mal à faire mieux, là. C'est viré du séminaire, avec un veto et autres. Il me dit, non, c'est pas la réponse que t'attends, toi, tu continues. Je dis, mais je suis viré. C'est pas grave, toi, tu continues. Et j'ai accepté de suivre leurs conseils, donc avec des hauts, des bas. À un moment, même le directeur spirituel m'a dit, là, tu viens de finir ton séminaire, donc j'avais fini mes études à Rome, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander à arrêter le séminaire, repartir dans la vie civile, et prendre le risque de relancer toute la machine. Prends le risque même de retomber amoureux. Prends le risque de remettre en cause ta présence au séminaire, le fait de devenir prêtre, en me disant, retrouve ta liberté. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on se demande, voilà, ça fait tant d'années que je suis au séminaire, est-ce que je continue parce que j'ai pris l'habitude d'y être, parce que je suis appelé pour ça? À un moment, on ne sait plus. C'est plus facile de rester que de partir. Et il m'a dit, bah pars. Pendant au moins un an, tu pars, tu vas bosser. Question, quand tu reviennes, tu puisses dire à l'évêque, c'est bon, maintenant je sais. Et c'est vraiment ça. Ou non, désolé, là j'ai rencontré Jeannette, elle est géniale, et finalement c'est elle. Et donc je l'ai fait, et ce qui m'a permis de... Alors deux choses énormes. La première, de redevenir un fidèle comme les autres. Aller travailler, aller à la messe, et me dire, ben là c'est mon temps pile la journée, il faut que ce moment m'apporte quelque chose pour la journée. C'est-à-dire se remettre à écouter les homilies comme quelqu'un qui en a besoin et qui va être nourri par ça dans sa journée. Repriez comme prie chacun de nos fidèles que nous avons dans l'Église. Ce qui m'a sorti d'un côté un peu cléricaliste, où au bout d'un moment, on prend l'habitude d'être toujours à côté de l'autel. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait. Et on oublie que l'important, c'est ce que les fidèles vont prendre avec eux pour vivre leur vie. Donc ça m'a beaucoup apporté là-dessus. Et en discernant avec mon directeur spirituel, au bout d'un an, il m'a dit, oh, bon, on a discerné ensemble, que non, c'était bon, c'était plutôt pour le sacerdoce auquel je me sentais appelé. Donc j'ai pu dire à l'évêque, c'est bon, maintenant là, je suis libre. Je peux dire oui, et je pense que c'est ça. Et m'engager de tout mon cœur. Donc ça m'a permis de jamais regretter mon choix.
Tant pis pour Jeannette, alors.
Ouais.
Voilà.
Si ça se
Et.
trouve, je l'ai rendue heureuse en la rencontrant pas.
Oui, peut-être aussi. C'est un parcours, c'est un joli témoignage que tu nous donnes. Maintenant que tu es prêtre, il y a, je pense, aussi des moments de haut et de bas, comme tout le monde.
Oui.
Mais ta conviction reste toujours entière.
La question de mon sacerdoce, je ne l'ai jamais remise en cause.
Ouais.
J'avoue, c'est une grande grâce. Ça ne m'est jamais revenu à l'idée de la mettre en cause. Bon, il y a parfois des moments où on peut se rêver en se disant, mais j'aurais pu être marié, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. On soupire parfois après la famille que nous n'avons pas. D'ailleurs, c'était un grand drame que j'avais eu au séminaire la première année, au moment où j'ai tous mes frères et sœurs qui se marient. Alors, le plus dur, c'est mon frère, parce que peut-être qu'on s'assimile beaucoup plus à son
Oui.
frère qu'à ses sœurs. Hein. Mais quand il a commencé à avoir ses enfants, j'avoue, c'était l'horreur. 2 mois à réaliser d'une façon extrêmement claire et limpide la beauté de la famille, d'être père, d'avoir des enfants, comment les enfants sont quelque part un peu une émanation de nous et continuent notre œuvre, et de saisir que ce qui reste de nous quand on part, c'est la famille que l'on laisse. Avec toutes les valeurs qu'on a essayé de leur donner, tout ce qu'on est, notre foi, qui au travers d'eux va se propager et changer le monde. Et à ce moment-là, mais qu'une envie, hein, c'était partir, redevenir amoureux. Et c'est ma belle-sœur qui m'avait sauvé ce jour-là, en me disant, mais tu ne comprends pas ce que tu nous apportes, toi. D'accord, nous on a la famille. Mais toi, tu vas pas partir comme l'herbe des champs. Sans toi, nous perdons Dieu. Toi, tu nous apportes Dieu. Et donc, tu auras une famille spirituelle au travers de toutes les personnes à qui tu apporteras Dieu. Tu changeras le monde au travers d'eux. Pas au travers de ta propre famille, mais au travers de ceux qui vont venir t'écouter et qui, grâce à toi, vont changer leur vie. Et je dois beaucoup, c'est elle qui m'a permis de réaliser en fait ce que j'apportais aux autres. Alors qu'à ce moment-là, j'ai tendance à regarder ce que moi j'étais en train de perdre. Peut-être par jalousie de mon frère, je sais pas, mais.
Tout à l'heure, tu nous as dit, oui, le problème, c'est que quand on est croyant ou chrétien, c'est plein d'interdits. Et c'est vrai que ce témoignage, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Et puis finalement, ceux qui croient en rien, ils ont le droit de faire tout. Je pense que ça m'interpelle un peu, parce que je crois que c'est quelque chose qui est en tête de beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui ne serait pas croyant? Ou qui serait dans le doute peut-être et qui te dirait oui, Dieu, c'est énervant, c'est que des règles où on n'a rien de droit de faire.
Bah, je lui apporterai la réponse que j'ai trouvée. Quoi, j'ai trouvé. Elle vient pas de moi. Hein, Saint-Augustin a commencé bien avant et autres. Mais c'est sa théologie qui m'a sauvé. Même Saint-Paul. Hein, Saint-Paul qui dit vous n'êtes plus soumis à la loi, hein, mais vous êtes soumis à l'amour. En fait, c'est que en se mettant sous la loi, en disant pour aller au paradis, le principe, c'est de ne pas aller en enfer, donc de ne pas pécher. Le principe, c'est qu'en faisant ça, c'est l'équivalent de vouloir conduire sa voiture en marche arrière. Si tu essayes juste d'aller à l'endroit où tu ne veux pas aller, tu es sûr de taper le fossé de l'autre côté. Mais ça sera un fossé. Tu n'iras pas ailleurs que dans un fossé. Quand je veux aller quelque part, je prends ma voiture, je regarde où je vais et j'y vais. Et il m'a fallu du temps, mais c'est ça qui m'a sauvé. Comprendre que notre loi, c'est l'amour. Si maintenant je regarde Dieu, je comprends qui est Dieu. Et j'essaye de le trouver dans le monde qui m'entoure. Et que, au travers de chaque élément que je touche, chaque rencontre que je fais, je me pose la question de mais comment là je peux t'aimer? Comment je peux faire quelque chose pour toi? Alors la vie n'est plus une somme d'interdits, elle devient une somme des possibles qui me permettent de montrer à Dieu que je l'aime, de me permettre de le trouver et de faire quelque chose avec lui. Et là le monde change. Le monde était devenu pour moi une prison lorsque j'ai saisi que non, que tout acte que je pouvais faire me conduisait à Dieu et me permettait de le trouver. Dans ce cas-là, le monde est devenu quasiment un paradis, dans le sens où c'était une merveille. Là, au lieu de me poser la question de ce que je ne dois pas faire, je me pose la question de qu'est-ce que je peux faire pour te plaire, Seigneur. Et parfois, ça m'arrive. Hein. Ça m'arrive le matin d'arriver en disant, eh ben, ça, il faut y aller à la messe, j'ai pas envie d'y aller. Et ce qui fait que j'y vais de bonne grâce, souvent, c'est de me dire, mais attends, Seigneur, t'es là-bas, est-ce que je peux te faire le coup de pas y aller, quoi? Attends, si on est des amis, non. Tous mes amis, si je sais que t'es là, je vais aller le voir, je vais passer du temps avec lui. Je vais passer du temps avec toi. Et donc ça me coûte plus, je suis en train d'aller voir quelqu'un, je suis en train de parler à quelqu'un quand je célèbre la messe. Je suis incapable de suivre le rite. J'ai souvent été critiqué au séminaire à cause de ça, du mal à suivre les rites. Quand je suis à la messe, je parle à Dieu. Je suis en train de célébrer, je suis en train de lui dire, mais tu vois, là, c'est ce sacrifice, je le veux pour ça, je le veux pour ça, pour le salut du monde, pour la grâce, un tel auquel je pense, là, je ne sais pas quoi faire. Voilà, occupe-toi de lui, je lui parle. Et là, on est en train d'offrir un sacrifice, je suis en train de partager avec lui. Ce qui fait que parfois, certains me reprochent un peu en me disant, mais tu es en train de regarder au plafond. Mais ils comprennent pas, je suis en train de lui parler, là, il est là-haut. Je ne demande qu'un truc, c'est écoute-moi, là, on parle face à face. Et en plus, plus je suis insolent, plus tu es heureux. Mais bouge pas, j'arrive. Voilà. Je suis en train de te parler face à face, je te tutoie comme un ami, je suis en train de te demander ce que je veux. C'est génial. C'est ça qui m'a permis de passer ce cap. Réaliser qu'en fait, le monde devient pour moi une somme de choses que je peux faire avec le Seigneur. Le trouver. C'était mon grand souci quand j'étais jeune, d'avoir l'impression que j'étais enclavé par des barrières. Et lorsque j'ai réalisé que c'était comme la route, prends ta voiture, tu remarqueras que tu ne regarderas jamais la ligne blanche. Si tu t'amuses à conduire en regardant ta ligne blanche, t'es sûr d'aller dans le fossé. La seule façon d'utiliser cette ligne blanche, c'est quand tu regardes là où tu veux aller, tu regardes et à un moment, tu t'aperçois que tu es en train de la franchir et c'est là que tu dois te poser la question qu'elle est là et donc corriger la trajectoire. Elle est juste là pour te dire que là, tu es en train d'aller dans le décor. La loi pour nous, c'est pareil. Ce qui compte, c'est l'amour. La loi est là pour me dire, mais attention, si là tu commences à franchir tes limites, c'est que tu es en train d'aller dans le décor. Pose-toi la question, comment je récupère ma trajectoire? Comment je retourne vers le Seigneur? En gros, la loi, et c'est tout saint Paul qui dit qu'elle n'est qu'un pédagogue, elle me permet de me conduire dans le Seigneur, me montrant que quand je suis en train de la franchir, je dois être en train de m'éloigner. Et donc elle m'oblige à me poser la question, pourquoi je suis en train de m'éloigner maintenant de Dieu? Donc maintenant, comment je rejoins? Elle n'est pas un absolu qui me dit, c'est pas un juge, c'est vraiment un guide.
Merci beaucoup Louis-Marie, c'est très intéressant, passionnant toujours de t'écouter parler. Je te souhaite beaucoup de bonheur sur chemin que nous empruntons tous, ce chemin qui est fait effectivement de découverte, de rencontre et d'amour le plus possible pour vivre notre vie avec bonheur, si c'est possible. En tout cas, merci pour ce que tu fais aussi pour les enfants de Saint-Jean-de-Luz. Ça se passe bien avec eux?
Ah, ils sont adorables.
Ils sont adorables, très bien. Eh bien, à bientôt dans l'école, Louis-Marie.
À bientôt et merci beaucoup.
Merci.
Au revoir, Xavier. Au revoir.